Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié ce matin. À travers l'introduction du temps de Sainte-Cène par Jean-Luc, j'étais touché et ça va me faciliter la tâche. Parce qu'en préparant le message ce matin, je me dis « Seigneur, j'ai l'impression que bien souvent, je voudrais être encourageant et quand on aborde des choses difficiles qui rappellent notre nature. Mais merci Jean-Luc, tu as bien préparé le terrain. Tu as bien préparé le terrain. » Ces paroles que je viens de citer, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié », c'est Paul qui les prononce aux Corinthiens, dans la première aux Corinthiens. Et je vais revenir là-dessus. Peut-être certains se souviennent, il y a un mois, entre-temps, il y a eu d'excellents messages sur le choix, sur, je crois, le regard de Dieu et sur la langue. Mais il y a un mois, le titre de mon message, c'était « Il a été fait pour nous, vous vous souvenez ? Sagesse ». Et aujourd'hui, nous allons envisager la suite. Il a été fait pour nous, justice aussi. Hein ? Donc le contexte, je le rappelle, c'est l'assemblée des Corinthiens, une assemblée richement bénie, avec qui ont reçu tous les dons. Je ne vous relis pas, je vous lirai un petit peu du passage, mais... Et pourtant, il y a de profonds désordres. Des désordres, Paul dira, à tel point qu'on ne rencontre même pas ça chez les païens. Comment cela est-il possible? Comment cela est-il possible que des chrétiens nés de nouveau, ayant reçu des dons du Saint-Esprit, ayant une révélation puissante, c'est Paul qui le dit, il le rappelle, comment de tels chrétiens peuvent avoir des conduites de débauche, de procès entre eux, des choses invraisemblables. Bien sûr, cela ne se produit pas aujourd'hui, encore que, à voir. Et vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle, c'est cette question-là des Corinthiens. Et Paul va leur parler. Il va les reprendre assez fermement. Je vais relire, je ne vais pas relire tout le chapitre premier comme je l'avais fait, mais je vais relire à partir du verset 17. Nous avons fréquemment des baptêmes dans l'Église et nous nous en réjouissons parce qu'ils attestent qu'une vie nouvelle a été reçue. Et ce n'est pas le baptême qui sauve, ma prédication n'est pas là-dessus ce matin. Mais Paul souligne, il va commencer ainsi au verset 17, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Ce matin, je voudrais simplement qu'on médite sur cet aspect-là. Il a été fait pour nous justice. Et je m'attacherai à ce seul point. Connaître le point de vue de Dieu sur mon état devant lui, suis-je juste à ses yeux, et si je ne le suis pas, comment le devenir ? Le premier aspect qu'il faut bien établir, pas un n'est juste, mais on peut le devenir. Pas un n'est juste. Je pourrais m'arrêter là, mais je vais développer parce que je sais que cette histoire-là, tout le monde va me dire d'accord, on connaît bien sa Bible, mais dans les faits, bien des comportements traduisent que l'on ne croit pas cela. On croit quand même qu'il y a un petit bout en nous qui est juste. Alors, comme Pierre l'a dit, je répéterai, je rappellerai ces choses tant de fois que nécessaire. Vous les savez, mais on les rappellera quand même. Pour ça, je vais lire deux paraboles. Une, je ne vais pas la lire tout entière. Dans Luc 18, versets 9 à 14. Luc 18, versets 9 à 14, c'est pas très long, on va la lire. C'est la parabole dite du pharisien et du publicain. Luc 18, versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. C'est Jésus qui parle. Et c'est une parabole, donc un enseignement qui donne avec un objectif bien précis et nous donne cet objectif. Il constate lui aussi qu'il y a certaines personnes qui se persuadent qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. L'autre parabole, c'est dans Luc 15, les versets 11 à 32, la parabole du Père miséricordieux, encore appelée celle du Fils prodigue. Je vous rappelle, j'en parle assez souvent. Il y a le Fils prodigue, mais il y a le Fils aîné. Je ne vais pas lire toute cette parabole, mais la rappeler en quelques termes. Le Fils prodigue demande sa part, s'en va, fait la fête. Quand il a tout épuisé, il rentre en lui-même et il dit « Je me lèverai, j'irai et je dirai à mon père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers, cela m'ira bien. » Il fait cela, son père l'embrasse, le revêt, l'embrasse, l'accueille, il le voit arriver de loin, il l'aime et il le pardonne et justifié, il ne lui demande pas d'explication. Pendant ce temps-là, le fils aîné, dehors, apprend qu'on fait la fête, ne supporte pas cela, et il reste au dehors, il n'entre pas, et il fait des reproches à son père. Il lui explique, lui, combien il était juste, et que ce n'est pas juste, grosso modo. Alors, de ces deux paraboles, je vais tirer quelques enseignements communs. Donc, pas un n'est juste. Dans tous ces cas-là, pas un n'est juste. Ni le pharisien, ni le publicain, ni le fils prodigue, ni le fils aîné, on est bien d'accord. Mais certains seront justifiés et d'autres pas. Alors, j'ai relevé un peu, pour être justifié, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et j'ai relevé aussi, pour ne pas être justifié, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour être justifié, la première chose, c'est d'avoir la conviction que l'on n'est pas juste. Vous allez dire, un peu basique, ben, je suis basique. Pour être justifié, il faut avoir la conviction qu'on n'est pas juste, que notre cœur est tortueux. Reconnaître nos fautes, et venir tel que l'on est devant Dieu. C'est l'attitude du publicain et l'attitude du fils prodigue. Et le deuxième point, ça ne suffit pas, c'est avoir confiance dans la miséricorde de Dieu. C'est ce qui va nous mettre en route pour pouvoir revenir vers lui. Mais c'est intéressant de voir ce qu'il faut faire pour ne pas être justifié. Expliquer à Dieu tout ce que nous faisons pour lui, c'est ce que fait le pharisien, sans rien oublier de nos mérites, de nos bonnes œuvres, faites bien sûr pour honorer Dieu. Alors on va faire la liste. Lui expliquer aussi à Dieu la différence entre moi et les autres. Bien sûr, c'est une comparaison qui va être plutôt en notre faveur, comme ce pharisien. C'est le cas aussi pour le fils aîné. Il refuse d'entrer dans la maison. Il refuse de revenir. Il refuse de revenir. Parce que lui est juste et ce qui se passe là n'est pas juste. Qu'un pécheur repenti soit accueilli comme s'il n'avait pas péché, ce n'est pas juste. Donc il refuse d'entrer, il se met en colère contre Dieu, qui n'est pas juste, puisqu'il se réjouit du retour d'un vaurien. Donc voilà, très simplement, à partir de deux paraboles, je pourrais y passer des heures, mais en tout cas, quand je les lis, simplement, voilà ce qu'il faut faire pour être justifié, ce qu'il faut faire pour ne pas l'être. J'ai oublié aussi, pour ne pas être justifié, c'est important d'expliquer à Dieu en quoi il n'est pas juste. Hein? Parce qu'on sait bien les points, voilà. Et aussi de mettre en regard de son injustice à Dieu nos bonnes œuvres. C'est ce que fait le fils aîné. Tu ne m'as jamais donné un chevreau. Moi j'ai toujours servi, je suis au boulot, nuit et jour, je suis fidèle, ça fait des années que ça dure, et tu ne m'as même pas donné un chevreau. Donc non seulement tu es injuste, et puis je vais t'expliquer comment. Vous avez compris le résumé de cela, c'est pour être justifié, pour, je vais y venir plus tard, recevoir cette justice, il faut d'abord s'approcher de Dieu, et je vais résumer ça, reconnaître notre état adamique. Reconnaître, on va s'approcher de Dieu, et je vous rappelle que Dieu, il est juste, il est saint, il est bon, il est miséricordieux, mais il est lumière. Et quand on s'approche, ça éclaire. Donc c'est pour ça que c'est important de s'approcher de lui. Parce que sinon, on va peut-être lui raconter superficiellement ce qu'on on va peut-être se trouver quelques défauts. Mais si on s'approche de lui, il va éclairer. Et là, c'est une étape capitale, incontournable, qui va nous permettre de réaliser notre état devant Dieu. Il s'agit, écoutez, il ne faut pas jouer là. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Ne pas négocier, on ne peut pas négocier. Il n'y a pas de place à ce moment-là pour le « Oui, Seigneur, peut-être, il y a eu ça, mais tu comprends, j'ai souffert, j'ai été incompris. » Ne croyez pas que je traite à la légère la souffrance et les blessures, mais Dieu sait cela. Je rappelle toujours, on a lu Ésaïe 53, c'est la première chose qu'il dit, il a pris nos souffrances. Il s'approche, il lui dit, je sais. Et, parce qu'il sait bien les conséquences du péché, que c'est la souffrance, et il le sait, il le dit. Dieu sait cela, il a prévu une véritable consolation, par sa parole d'ailleurs. Mais cela ne peut servir de justification devant Dieu. Nos souffrances ne seront jamais une justification devant Dieu pour nos péchés. Comprenons bien ce que je veux dire. Reconnaître son état, ce n'est pas simplement aussi confesser une liste de mauvaises actions devant Dieu, voire devant des hommes, mais réaliser que la racine est mauvaise. Et reconnaître que nous ne pouvons pas nous en sortir seuls. Reconnaître que la racine est mauvaise et que nous ne pouvons pas nous en sortir seuls. Je prendrai deux illustrations de serviteurs qui ont saisi cette dimension. Le premier, c'est Daniel. Daniel, le prophète Daniel, et je vous invite à lire dans Daniel 9, les versets 4 à 9. Daniel 9, versets 4 à 9. Donc, je vous présente rapidement Daniel. Daniel, un jeune homme qui faisait partie de l'élite de la nation d'Israël, qui se trouve déporté. Hein, les envahisseurs ne se trompent pas, ils prennent d'abord l'élite pour gérer leurs affaires. Vous savez que la déportation à Babylone est liée à des siècles d'idolâtrie de la part du peuple d'Israël. Et Daniel se trouve déporté. Il n'a rien fait, lui, par rapport à ça. Et voilà pourtant la prière de Daniel. Au verset 4, « Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. » C'est la prière de Daniel, ce jeune homme, qui n'est pour absolument rien dans la déportation du peuple à Babylone. Et franchement, il aurait eu de quoi se révolter. Non seulement il ne se révolte pas, mais il s'associe. Ça veut dire que cet homme-là a compris que ce n'est pas simplement le péché. Le péché est comme... Il y a deux choses, le péché. C'est à la fois un fruit, le fruit d'un arbre, le fruit d'une nature. L'homme adamique, il pêche parce que c'est sa nature. Et Daniel a compris ça. Il aurait pu dire, Seigneur, il aurait pu simplement intercéder pour ceux qui ont péché. Non, il s'associe. Nous avons péché. Il reconnaît par là, il se reconnaît de la même nature que ses pères. Et ça, c'est important. Je ne sais pas si je fais bien saisir, bien comprendre. C'est extrêmement important, cette histoire-là, parce que sinon, on va tournicoter. On va confesser des péchés, mais on ne va pas réaliser notre nature. Et on va continuer d'espérer une amélioration par nos forces. Je vais prendre un deuxième cas. La position de Paul, je l'ai rappelé mardi soir à la réunion de prière, ça m'a venu comme ça, dans Romains 7. Nous pouvons les lire. Dans Romains 7, les versets 14 à 25. Romains 7, versets 14 à 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Donc c'est Paul qui parle. Je rappelle, dès mardi soir, Paul, il ne vient pas de se convertir là. Ce n'est pas un nouveau converti, Paul. Il est dans le ministère. Et quel ministère ? Et voilà ce que Paul écrit, le concernant. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, Paul. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Sommes-nous d'accord avec cela ? C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, celui qui a été renouvelé par l'Esprit de Dieu. Mais je vois dans mes membres une loi, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Je lirai la suite, on verra la suite tout à l'heure. Il faut arriver à ce désespoir-là. Parce que sinon, Si je vous dis ça ce matin, c'est parce que j'ai vraiment le désir que nous grandissions, que nous avancions. Et trop finalement de personnes se désespèrent et pataugent dans des péchés qui se répètent et font des efforts. Mais ça revient. Parce que tant que nous n'avons pas réalisé cela, que c'est la racine qui est mauvaise, nous allons vers un découragement parce que nous allons revoir sans cesse les mêmes choses revenir. Et nous allons finir, et c'est là le danger, par désespérer de Dieu et se révolter contre lui et dire « mais finalement, ça ne marche pas. J'ai été sauvé, mais il y a quelque chose, ça ne marche pas. Dieu ne m'a pas libéré. » Ça me fait penser, on passerait son temps à ramasser des fruits pourris par terre pour que ce soit bien propre, puis il retombe toujours des fruits aussi pourris. C'est normal. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Il faut comprendre cette chose-là. Sinon, on passe son temps à ramasser des fruits pourris et ce n'est pas agréable. Et c'est là qu'il nous faut comprendre que c'est lui, Jésus-Christ, qui a été fait. Les choix des mots est important. Il a été fait. Il a été fait. Il a été incarné, littéralement, le terme, c'est ça. Il s'est incarné, nouvel Adam, juste lui. Et c'est lui qui vient habiter en nous. Et si lui qui a été fait justice, qui est le nouvel Adam, qui seul peut régler le problème de l'ancien Adam, si alors c'est Christ en nous, alors oui, il y a l'espérance de la gloire. Parce que cet Adam-là, cet arbre-là, il va produire des bons fruits. Arrêtez de lutter avec le vieil Adam. C'est un combat qui est perdu d'avance. Ce combat-là, c'est Jésus-Christ à la croix qui l'a remporté une fois pour toutes parce qu'il a été fait sagesse, nous a révélé le plan, justice, sanctification et rédemption, et on verra que c'est des fruits, ça, tout simplement, de la vérité qui est venue. La vérité, c'est toute la vérité. La nature adamique est pourrie, je reprends les termes, elle est pourrie, elle ne produira jamais de bons fruits. Mais le nouvel Adam est saint, et c'est lui qui, par le Saint-Esprit, vient habiter en nous. C'est de cela dont il faut s'occuper, sinon on va passer le temps à ramasser des fruits pourris. S'approcher et reconnaître. Des avertissements nous sont donnés sur cette démarche-là. Il ne faut pas résister à ça. Il faut venir à la lumière. Sinon, on promène les choses et ça ne se règle pas. Sinon, on essaye de cacher les fruits pourris. On va les lustrer. Mais le fruit, il est pourri. Il va se corrompre. Vous pouvez l'astiquer, la pomme. Elle est pourrie. Des avertissements nous sont donnés, je voudrais lire dans le psaume, je crois c'est le psaume 50, à partir du verset 16. Ça paraît sévère, mais c'est pour déclencher quelque chose. Psaume 50 au verset 16, et Dieu dit aux méchants, « Quoi donc ? Tu énumères mes lois ? Tu as mon alliance à la bouche ? Toi qui hais les avis ?» et qui jette mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal. On nous a parlé il y a quelque temps là-dessus, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Et là, il y a un piège. Non, jusqu'à présent, tout va bien. Je vis, le Seigneur a l'air d'être d'accord, il m'arrive rien. Mais attention, voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie et celui qui veille sur sa voie, je ferai voir, à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Quand on avance, qu'il y a des choses tordues, ne faisons pas comme si ce n'était pas tordu. Revenir et reconnaître. Dieu, il a été fait justice. Il est dit aussi que le Saint-Esprit nous convainc de justice, de péché, de justice et de jugement. Dans Deutéronome 9, au verset 6, il est dit « Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays que tu possèdes, car tu es un peuple au cou raide. » Et je pensais aussi, lorsque il y a des choses qu'on cache, vous avez peut-être vu à la télévision des procès, des grands procès, hein, enfin des grands procès, des affaires complexes où il y a beaucoup de monde, ou des enquêtes qui ont duré très longtemps, il y a des piles de dossiers comme ça. Je ne sais pas qui les a lus d'ailleurs, mais enfin, des piles de dossiers. On a enquêté sur ce qui s'est passé, sur les intentions des uns, sur les intentions des autres. Et les hommes vont essayer de rendre, au milieu de ça, quelque chose qui soit juste. Quand vous voyez ces dossiers-là, dites-nous que les dossiers que Dieu connaît sur nos vies, c'est encore autre chose. Il connaît tous les détails. Il connaît les motivations. Il connaît tous les moteurs qui se sont mis en route dans nos vies depuis le plus jeune âge. Il sait tout, à charge et à décharge. Avec Dieu, nous ne pourrons pas plaider. Vous savez, aux États-Unis, on peut plaider coupable ou non coupable. Nous ne pourrons pas plaider non coupable. Venons tels que nous sommes. Il a tout le dossier. Et ne voyons pas ça comme une menace, mais comme une grâce. Il sait tout et il a tout accompli et il a été fait justice. C'est pour nous faire sentir à quel point c'est ridicule de vouloir cacher. Il sait tout. Et tout viendra à la lumière. Et moi, ma prière, c'est que ça ne vienne pas à la lumière lorsqu'il va le revenir. Qu'on ne soit pas là devant lui avec des trucs qu'on a cachés. Pourquoi, quoi ? Il sait tout. Il sait tout. Alors, revenir à Dieu, reconnaître. Et à ce moment-là, nous allons parler, nous allons être justifiés par la confiance en la personne de Jésus-Christ, en son œuvre. Et ça doit être le cœur de mon message. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas pouvoir être au bénéfice de cela si on n'a pas accepté de s'approcher. Et si on s'approche de Dieu, la lumière vient, et là, on reconnaît. Publicain, fils prodigue. On va se mettre dans les conditions pour recevoir, pour être justifié. Je vous invite à lire dans Romains 3, versets 21 et 28. C'est un texte, je l'appelle un texte charnière en fin de compte, quoi. La lettre aux Romains, les premiers chapitres, Paul expose que pas un n'est juste, ni les païens, ni les juifs, bien que les juifs aient reçu la promesse, etc. Mais il ramasse tout le monde, hein, en disant pas un n'est juste, tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc je vous résume rapidement cette partie que je ne vais pas lire complètement, mais tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On peut passer à Genèse 6 aussi, toujours pour vous convaincre qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir dans la nature adamique. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Romains 5 nous traite aussi de ça. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à Adam. Ça, c'est important. On n'a peut-être pas tous commis la faute d'Adam, mais on a tous hérité du bazar. Et donc, en Romains 3, verset 21, il est dit « Mais maintenant, Sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi, ou la confiance, si vous voulez, en Jésus-Christ, pour ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, pour ceux qui feraient confiance, qui accepteraient cela, victime propitiatoire, j'y reviendrai, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Je reviendrai sur ces deux versets. Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? La loi de les œuvres ? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons, ce verset magnifique, attesté par les réformateurs, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, par la confiance en l'œuvre de Christ, hein, je développe, sans les œuvres de la loi. Alors il nous est dit des choses importantes. Jésus nous est présenté comme une victime propitiatoire, mais avant, dans 1 Jean 2, il nous est présenté comme une victime expiatoire. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est par un seul sacrifice, c'est universel, c'est le moyen par lequel tous les hommes peuvent être sauvés. Dans 1 Jean 4, versets 9 et 10, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort de Christ règle le problème du péché. Il est expiatoire. Il a expié à notre place. C'est le côté nécessaire du sacrifice de Christ. Le sang de Christ est nécessaire pour que nous soyons justifiés. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Je rappelle des choses que vous connaissez, que beaucoup connaissent. Mais je ne fais rien d'autre que ce que Paul a dit aux Corinthiens. La victime est propitiatoire. Alors ça, c'est un terme qu'on connaît moins. Ça veut dire qu'elle a été agréée. Ça a été reconnu. Dieu a accepté. Il a dit le sacrifice de mon Fils, qui était nécessaire, il est suffisant. Et Dieu s'est montré favorable. Jésus-Christ, il a donné lui-même sa vie. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Le Père a reconnu la valeur de ce sacrifice. Il est jugé suffisant. Il n'y a donc rien à ajouter. Rien. Et ça, c'est un plan merveilleux qui nous est donné dans les versets 25 et 26. C'est une phrase un peu complexe, mais on va la relire. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, tous les mots sont importants, pour ceux qui croiraient, victime, agréée par Dieu, acceptée par Dieu, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant en temps de sa patience. Vous voyez, la justice, la sainteté de Dieu fonctionne avec sa miséricorde, sa patience. Dieu, il est patient. Il est patient, mais à un moment, ça fait partie de la justice de Dieu qui intègre la patience. Nous, souvent, en tant qu'humains, quand on réclame justice, on veut que ce soit tout de suite et en notre faveur. C'est toujours des dossiers à charge sur ceux qui nous ont offensés. On prend rarement le temps de s'examiner pour voir ce qui a pu clocher chez nous. Dieu, il est patient. Il a été patient, très patient. Et quand il va manifester sa justice, il le fait de manière à être juste, parce que sinon on ne peut pas s'approcher de lui avec le péché, donc il faut qu'il règle ce problème du péché, tout en justifiant, en rendant juste celui qui a la foi en l'œuvre de Jésus. C'est merveilleux ce qui se passe là. Le sacrifice de Jésus expie le péché et nous permet de nous approcher. Nous sommes justifiés gratuitement par la grâce. Donc après être revenu vers le Père, après avoir reconnu, alors, après avoir aussi renoncé à notre propre justice, ça c'est important. Je renonce à ma propre justice. Et ça c'est tenace. Ça c'est tenace. Notre propre justice. Qui va avec tout le problème de comparaison de ce qu'ont pu faire les autres. Moi j'ai quand même pas fait ça. Il faut qu'on renonce à ça. Parce qu'aux yeux de Dieu ça vaut rien quoi. Donc après avoir fait ces étapes, nous pouvons recevoir sa justice. Sa justice. Mais nous n'avons pas, j'insiste, il nous faut la recevoir. Parce qu'elle est donnée à ceux qui croient, qui ont confiance et qui disent « Oui, j'accepte ta justice. » D'être revêtu de ta justice. Mais alors, si nous sommes justifiés, nous sommes donc... Là, vous ne suivez plus. Si nous sommes justifiés, nous sommes donc... Nous sommes donc justes. Nous sommes donc justes. Et alors, oui, comme dit Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si nous avons reçu sa justice et renoncé à la nôtre, alors nous sommes justes. Nous sommes comme si nous n'avions pas péché. Même s'il y aura des conséquences du péché, mais ça ne peut pas être des conséquences en termes d'accusation. J'y reviendrai. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Romains 8, 33. Dans 1 Corinthiens 6, toujours dans l'exhortation que Paul continue à faire aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, lumière, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Si nous avons été justifiés, si nous avons reçu par la foi la justification de Dieu, alors nous sommes justes. Nous sommes justes. Je ne dis pas ça pour qu'on revendique « je suis juste » et que de nouveau on bombe le torse. Pas du tout. Pour être libéré et avancer et servir. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Là, nous avons une exhortation de Paul extrêmement équilibrée. C'est pour la liberté que vous avez été affranchis, justifiés. Ne vous laissez pas remettre le grappin dessus par l'ennemi qui va vous accuser, je vais développer ça. Mais d'un autre côté, vous avez été justifié, mais pas pour continuer à vivre selon la chair, mais pour vivre pour Dieu, pour celui qui vous a justifié, qui vous a racheté. Comment peut-on prendre cela et repartir sur ses propres voies ? Vous voyez, en permanence, il y a cet équilibre. Alors je suis désolé pour ceux qui aimeraient bien les choses. Clac, clac ! Oui, c'est clac, clac, mais c'est équilibré. Parce que la puissance de la nature adamique... qui a été vaincue, elle se manifeste encore de temps en temps. Donc il faut mieux avoir les idéaux clairs sur où elle est, où elle doit être, dans le tombeau, et quand elle se réveille, savoir quoi faire. Alors, ce sera mon autre point, il s'agit de résister. Nous sommes justes, mais l'ennemi, lui, ne l'entend pas ainsi. Il va continuer de nous accuser. Je vais illustrer ça dans Zacharie 3, versets 1 à 5. Zacharie 3, versets 1 à 5. Une vision donc que Zacharie reçoit qui concerne le grand prêtre Josué. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. On rappelle que nous sommes aujourd'hui sacrificateurs devant l'Éternel aussi. Debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser, l'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché au feu ?» Or Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête, ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Ça me rappelle ce que le père fait pour le fils prodigue. Il le revêt d'un vêtement et il festoie un vêtement de fête. Je t'enlève ton iniquité. Je t'enlève ton iniquité. Ça a été redit tout à l'heure. Je crois que c'est vraiment « Je t'enlève ton iniquité, pas par tes mérites. Je pardonne ta rébellion. Je t'enlève ton iniquité parce que j'ai agréé le sacrifice de mon Fils Jésus-Christ, mort pour tes péchés, mort pour ces horreurs que Jean-Luc nous a décrites tout à l'heure. Je t'enlève ton iniquité. » Et Satan n'a pas le droit de te réaccuser. En conclusion, peut-être, pour vous donner quelques repères dans ce message, il m'est venu 5 verbes qui commencent tous par R. Revenir à la maison du Père. Revenir à la maison du Père. Y reconnaître son iniquité, renoncer à notre propre justice, recevoir sa justice. Et alors, résister aux accusations de l'ennemi et aux tentations du retour en arrière. Revenir, reconnaître, renoncer à notre propre justice, recevoir sa justice. Et résister aux accusations. Elles ne manqueront pas. Alors, nous deviendrons nous-mêmes des instruments de justice. Des instruments de justice pour Dieu. Là où nos moteurs nous avaient conduits à l'iniquité et à la mort, maintenant, ils nous conduisent à la justice. Nous sommes des instruments de justice, alors, dans les mains de Dieu. Renoncer à notre propre justice et recevoir la sienne. Il a été fait pour nous. Il a été fait pour nous, pour chacun de nous. Justice. Vous savez que dans Éphésiens 6, la deuxième arme spirituelle, la première c'est la vérité. Et la justice avec la sainteté sont des fruits de la vérité. Ça nous est rappelé aussi, une justice et une sainteté que produit la vérité. Et la vérité, c'est lorsqu'on est dans la marche à la lumière. C'est extrêmement important. Tout le monde veut l'unité, tout le monde se dit « Ah ouais, mais il n'y a pas l'unité ». Mais l'unité, elle vient quand il y a la marche à la lumière. Elle est un fruit, l'unité. Elle n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer en faisant des rassemblements, des regroupements. Elle est un fruit, l'unité. Qu'il soit un, garde-les dans la vérité. Ta parole est la vérité. Et si elle n'est pas acceptée, il ne peut pas y avoir d'unité. Alors recevons sa justice, renonçons à la nôtre et tenons ferme. Nous prions. Seigneur, Seigneur, tu connais tous les dossiers de nos vies. Tous, Seigneur. Tu connais tous les dossiers de nos vies, Seigneur. Seigneur, nous venons simplement devant toi ce matin. Et ma prière, Seigneur, c'est que plusieurs reçoivent ta justice. Et pour cela qu'ils acceptent de venir à toi, La lumière éclairera, Seigneur. Mais nous sommes rassurés, Seigneur, comme tu as traité le publicain, comme tu as traité le fils prodigue qui s'était révolté d'une manière ignoble contre son père qui lui avait fait du bien. Tu l'as accueilli, tu as couru vers lui, tu l'as entouré, Seigneur. Nous avons besoin de ta justice, Seigneur, la nôtre, et comme un vêtement souillé, nous voulons l'abandonner, Seigneur, et recevoir ta justice. Seigneur, viens que nous soyons aussi pour nos frères et pour ceux, Seigneur, que tu veux encore arracher au feu, des témoins de vie, libérés parce que justifiés, parce que juste devant toi, pouvant se présenter devant le Père et recevant ce deuxième fruit du royaume qui est la paix et la joie de ne pas avoir été punis comme nous le méritions, Seigneur, comme dit Job. Je n'étais pas été châtié comme je méritais, parce que, Seigneur, tu as été miséricordieux, tu as été patient, et, Seigneur, tu as exercé ta justice tout en permettant à celui qui se confie en toi d'être juste à tes yeux. Je te loue et je te bénis, Père. Amen.